Silcast présente l'analyse longue, thème du jour philosophie et éthique de la tech, avec Nia et Clara. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on prend le temps sur quatre textes qui, mis bout à bout, posent la même question sous des angles différents. Qu'est-ce qu'on cherche à faire durer et pourquoi ça ne nous rend pas plus heureux? On a Scott Alexander qui répond à Cassie Pritchard sur le paradoxe libéral du bonheur, un texte de Terrestre sur l'oubli numérique, une réflexion d'AOC sur la robustesse comme concept écologique, et enfin John Ambrosio sur 3 Quarks Daily, qui parle de vivre avec un savoir insupportable en temps de polycrise.
La thèse d'ensemble, si je la formule prudemment, on a hérité d'un cadre libéral moderne qui promettait le progrès mesurable, et quatre auteurs très différents constatent que ce cadre craque, chacun sur une dimension. Bonheur subjectif, mémoire, soutenabilité, santé mentale collective.
Commençons par Scott Alexander parce qu'il pose le cadre le plus net. Pritchard tweetait en substance « Le libéralisme a gagné, on est 225 fois plus riche qu'au Moyen-Âge et pourtant 20% de dépression, natalité en chute, pessimisme généralisé. Donc le libéralisme est épuisé. »
Et Scott donne d'abord ce qu'il appelle la réponse mathématique élégante qui ne satisfera personne. Le bonheur ne scale pas avec le revenu, il scale avec le log du revenu. Sur un large échantillon américain, la corrélation entre bonheur et log revenu est de 0,48, 0,49, presque parfaitement linéaire de 10 000 à 500 000 dollars par an.
Ce qui donne un calcul brutal. Si le revenu a été multiplié par 225 depuis l'an 1000, le bonheur aurait dû augmenter d'environ 3 points sur 10. Un cerf médiéval à 3,10, nous à 6,10. Et effectivement, les Burundais, dont le PIB par tête ressemble à celui de l'Angleterre médiévale, s'auto-évaluent entre 3 et 4. Les Américains entre 6 et 7. Ça colle.
Ce qui est intellectuellement honnête dans le papier, c'est qu'il note que la relation ne plateau pas. La collaboration Killingsworth-Kahneman-Mellers suggère qu'on peut continuer à rendre les gens plus heureux avec plus d'argent indéfiniment. Mais chaque point supplémentaire coûte exponentiellement plus cher.
Et donc la réponse à Pritchard, c'est « Le libéralisme n'a jamais promis l'extase. Il a livré exactement ce que la courbe log prédit. » Le sentiment d'insatisfaction ne prouve pas l'échec du système. Il prouve juste qu'on a une intuition linéaire face à une réalité logarithmique.
Je trouve l'argument solide mais insuffisant, et Scott le reconnaît lui-même. Parce qu'il traite le bonheur comme une variable scalaire mesurable, alors que Pritchard parle d'autre chose, de sens, de reproduction, de confiance dans l'avenir. Le fait que la natalité s'effondre n'est pas capturé par une note sur 10.
C'est là que le deuxième texte devient intéressant. Celui de Terrestre. Le dispositif littéraire est un rapport d'archéologues extraterrestres en l'an 3038 qui constate un paradoxe. À partir du XXIe siècle, l'humanité produit des trilliards d'images et d'écrits. Et il n'en reste presque rien. Les supports numériques se sont désagrégés. Aucun équivalent physique n'a été maintenu.
L'article s'appuie sur Terry Cooney, un bibliothéconomiste qui parle d'âge sombre numérique. C'est une thèse vérifiable. Les formats obsolètes, les liens morts, la dépendance à des serveurs privés. Le web de 2005 est déjà largement inaccessible.
Ce qui me frappe, c'est le retournement rhétorique. On a beaucoup parlé de la surveillance comme danger des données. L'article dit « L'autre menace symétrique, c'est l'oubli. Pas parce qu'on efface, mais parce qu'on n'entretient pas. La caducité passive. »
Et là, il faut être précis, parce que le récit science-fictionnel peut faire glisser vers une lecture apocalyptique. Factuellement, Internet Archive existe, la BNF fait du dépôt légal du web, il y a des efforts. La question réelle est à quelle échelle et qui décide de ce qui mérite préservation? Ce n'est pas zéro versus tout, c'est un tri massif et opaque.
D'accord, mais le point philosophique tient, une civilisation qui produit exponentiellement plus de traces tout en préservant proportionnellement moins, ça pose un problème de rapport au temps long. Et ça rejoint étrangement l'article d'AOC sur la robustesse.
Oui, faisons la transition. Émile Haug, Alexandre Monin et Jérôme Thougne partent du travail d'Olivier Amand sur la robustesse. L'idée, les systèmes vivants ne durent pas parce qu'ils optimisent, mais parce qu'ils conservent des marges, des redondances, des lenteurs, des stocks. À l'inverse des chaînes logistiques ultra tendues qui cassent au premier choc.
Concept séduisant et déjà largement diffusé. Ce que les auteurs ajoutent, et c'est là que l'article devient plus tranchant, c'est une critique interne. Faire durer n'est pas rendre soutenable. Certains systèmes robustes sont ce qu'ils appellent des ruines en fonctionnement, qui creusent leur dette écologique à mesure qu'on les répare.
L'exemple implicite qu'on peut donner, maintenir un réseau autoroutier, une centrale, une infrastructure numérique, on peut la rendre très robuste, très résiliente et prolonger ainsi un système qui ne devrait plus exister. La robustesse peut devenir un conservatisme technique.
Et donc la distinction qu'il propose me paraît importante. Faire durer pour éviter le changement versus faire durer pour rendre le changement possible. La robustesse est un moyen, pas une fin. La question éthique première, c'est qu'est-ce qui mérite d'être prolongé?
C'est philosophiquement plus mûr que le discours résilience pour la résilience. Ça introduit un critère de légitimité en amont de la question technique. Ce qui, notons-le, est exactement le reproche que Pritchard fait au libéralisme dans le premier article. Il optimise sans se demander vers quoi.
Bonne connexion. Passons au quatrième texte, Ambrosio sur 3 Quarks Daily. Le résumé qu'on a est court, mais l'angle est clair. Vivre avec un savoir insupportable en polycrise. Montée de l'autoritarisme, effondrement climatique, risque nucléaire accru, tout ça simultanément dans les démocraties libérales.
Le terme polycrise, il faut le manier avec précaution. Il vient d'Edgar Morin, repris par Adam Tooze. Le risque analytique, c'est qu'il devienne un fourre-tout qui empêche de hiérarchiser les urgences. Toutes les crises ne sont pas au même horizon temporel, ni de même magnitude.
D'accord, mais la question qu'Ambrosio pose reste juste, psychologiquement, comment un individu tient debout, en intégrant réellement l'information disponible. Parce que soit on dissocie, soit on s'effondre, soit on militante frénétiquement, soit on cynique. Aucune des quatre stratégies n'est très fonctionnelle.
C'est un vrai problème d'hygiène épistémique, en fait. Regarder les données sans se protéger, c'est ingérable. Se protéger, c'est ne pas les regarder vraiment. La calibration émotionnelle devient aussi importante que la calibration probabiliste.
Et ça boucle avec Scott Alexander, curieusement. Parce que la dépression à 20% dont parle Pritchard, ce n'est peut-être pas l'échec du libéralisme à livrer le bonheur matériel. C'est peut-être le coût cognitif d'être exposé, pour la première fois dans l'histoire, à la totalité des menaces globales en temps réel. Nos ancêtres médiévaux, à 3-10, ignoraient tout de ce qui se passait à 500 km. Nous savons tout, tout le temps.
Hypothèse intéressante, mais difficile à tester. On aurait besoin de comparer des populations à revenus équivalents avec exposition informationnelle différente. Ça existe partiellement, et les résultats sont mitigés. Je la mettrais à, disons, 40% de crédibilité comme facteur explicatif principal.
Prudente comme toujours. Pour synthétiser, les quatre articles convergent sur une critique du modèle optimisation-progrès-mesure. Scott Alexander en défend la version rigoureuse en disant qu'il tient statistiquement. Terrestre montre qu'il produit de l'amnésie. AOC dit qu'il faut penser ce qu'on prolonge avant de le rendre robuste. Ambrosio dit qu'il produit une charge cognitive insoutenable.
Là où je diverge un peu de la synthèse, c'est que je ne mettrai pas les quatre textes au même niveau de rigueur. Scott fait de l'argumentation empirique. Terrestre fait de la littérature d'alerte, ce qui est légitime mais différent. AOC est conceptuel et à mon sens le plus utile pratiquement, parce qu'il donne un critère de décision. Distinguer faire durer pour figer versus faire durer pour transformer.
C'est un critère que je trouve moi aussi opérationnel. Il s'applique aussi bien à une infrastructure technique qu'à une institution politique, ou même à des concepts philosophiques comme le libéralisme. Le libéralisme mérite-t-il d'être rendu robuste ou faut-il le laisser se transformer?
Question que je laisse ouverte, honnêtement. Ma probabilité subjective que le cadre libéral tienne sous sa forme actuelle à horizon 30 ans est basse, disons 30%. Mais ce qui le remplacera n'est pas nécessairement mieux. Et c'est là que la prudence de Scott a du sens. Ne pas jeter un système qui livre statistiquement ce qu'il a promis, sous prétexte qu'on avait mal calibré nos attentes.
Sur ce point de calibration des attentes, on pourrait s'arrêter. C'est peut-être le fil rouge. Nos systèmes techniques et politiques ne sont pas nécessairement défaillants. Nos attentes sont mal ajustées à ce qu'ils peuvent produire. Reste à savoir si on ajuste les attentes ou si on change de système.
Et cette question, aucun des quatre articles ne la tranche vraiment, ce qui est probablement honnête de leur part.